Chapitre 9, verset 10. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Les trois mots qui suivent m'ont interpellé et c'est pour ça que je vais prêcher là-dessus. « Car il prie. » Merci au préposé à l'ordinateur. Voilà. Bonjour, sœur. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir en mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Je vous dirai de laisser votre doigt sur Acte 9. On va y revenir dans une minute. Pour l'instant, je voudrais qu'on lise Marc 7, 5. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » J'attire votre attention. « Des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère » et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites « Si un homme dit à son père ou à sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu », vous ne le laissez plus rien faire pour son père et pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » On revient à Acte 9, si vous voulez bien. Donc, celui qui s'appelait encore Saul s'en va dans les directions de Damas afin de persécuter tous ceux qui croient dans la nouvelle doctrine, c'est-à-dire les chrétiens, les persécuter, les mettre en prison et pire encore. Verset 3. Il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait difficile de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Je souligne là aussi, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » La suite, je l'ai lu avant. Hein. J'espère que vous y retrouvez. Dieu arrête Saul et il utilise les grands moyens. Il arrive que Dieu prenne du temps, que Dieu y aille doucement pour rappeler certaines personnes. Et puis il arrive qu'il utilise les grands moyens, comme on dit familièrement, qu'il mette le paquet. Hein, ça arrive. Là, c'est le cas. Paul répond. Il aurait pu se détourner. Moi, je vais vous lire tout à l'heure des passages où les gens persistaient dans l'erreur. Là, non, il répond, que veux-tu que je fasse ? Et il prie. Et cela suffit. Et les autres chrétiens ont compris. Le virage à 180 degrés a eu lieu. Et il n'est plus question de respirer la menace et le meurtre. Dans la Bible, il y a souvent des récits de personnes qui ne sont pas dans la volonté de Dieu et qui ne prient pas. Ils préparent des coups pendables en se basant sur la tradition ou sur la loi de Dieu qu'ils interprètent à leur manière. Ils agissent en fonction de leur autorité, mais pas celle de Dieu. Et ils agissent, bien sûr, en fonction des rapports de force. Quelques exemples. 1 Roi 21:3 et la suite. Le roi Acab convoite la vigne d'un dénommé Naboth. Et bien pour et comme le propriétaire de cette vigne ne veut rien savoir, ils utilisent le prétexte religieux. Si vous lisez dans 1 Roi 21, les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats, agirent comme... Excusez-moi. Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées, ils publièrent un jeûne, ils placèrent Naboth à la tête du peuple, les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes témoignèrent ainsi devant le peuple, Naboth a maudit Dieu et le roi. On utilise l'autorité de Dieu pour prendre, pour obtenir quelque chose d'injuste, et pour cela, on fait un faux témoignage. Moi, je ne sais pas si... Moi, si j'avais fait ça, je ne serais pas tranquille. Mais alors là, c'est... Déjà, faire un faux témoignage et faire tuer quelqu'un qui n'a rien fait. Mais en plus, en utilisant l'autorité de Dieu. Autre exemple où quelqu'un agit mais ne prie pas, oh, vous connaissez tous ça par cœur. David, lorsqu'il met la femme d'un de ses officiers, Uri, dans son lit, il ne prie pas. Il ne prie pas. Il magouille, vous connaissez la suite, il met la femme dans son lit, elle tombe enceinte, il fait rappeler le mari pour que, bon, bref, il prenne sur lui la grossesse, n'est-ce pas, pour qu'il couche avec sa femme. Vous connaissez tout ça, n'est-ce pas? Il priera après. Il priera après pour se repentir. Il priera après quand l'enfant qui est né va mourir. Il priera pour restaurer sa relation avec Dieu. Mais il ne prie pas au moment de la mauvaise action. Les gens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu suivent un autre commandement que ceux de Dieu. Ils obéissent à ce que Jésus appelle des commandements d'hommes. Les commandements d'hommes, ça vient des hommes. Il y en a qui suivent, très bien. Le commandement d'homme, ça vient des hommes. J'étais un jour dans un mouvement de jeunesse chrétien, il y a très longtemps. Il y avait une pratique que je trouvais lamentable, le bizutage. Et je peux vous dire que... Alors, on allait à l'église, je ne dirais pas si c'était le culte protestant ou la messe catholique, je vous laisse deviner. Oui, très bien, commandement d'homme, ils obéissaient. Mais en fonction du commandement d'homme, il était d'usage dans ce mouvement de jeunesse plus ou moins chrétien de tolérer le bizutage, de ridiculiser, de faire mal, d'humilier. Et il y en a qui allaient se présenter devant Dieu à 10 heures en ayant un sac à dos dans lequel ils avaient déjà prévu ce qu'il faut pour humilier l'autre. Notamment de la ficelle pour ligoter le gars. C'était ça le bizutage. Eh bien, il y avait un commandement d'homme qui tolérait le bizutage. Certains actes de bizutage se sont terminés par la mort de la victime. Un jour, ils ont trouvé très spirituel d'attacher leur victime sur une voie de chemin de fer, qui était une voie de garage, rassurez-vous.
Et sûr, c'était pas un assassinat,
ça ? Non, mais... 5 mètres à côté, il y avait la voie ferrée Bordeaux-Marseille où les trains passaient à 120 à l'heure. La victime, en pleine nuit, elle a entendu le train qui arrivait. Crise cardiaque. Ça s'est soldé, j'espère que ça ne vous fait pas trop rire, par la mort d'un jeune homme de 15 ans. Parce qu'un commandement d'homme toléré ou même encouragé dans ce mouvement de jeunesse, le bizutage, le commandement d'homme. Les gens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu suivent un autre commandement que celui de Dieu. Encore un acte injuste, l'exécution d'Étienne. Si vous cherchez, c'est dans Actes 7, 55. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont dit, attends une minute, là, développe un peu, là, on voudrait écouter, là. On va peut-être apprendre quelque chose. Non, ils n'ont pas fait ça. Il est écrit, ils poussèrent de grands cris, pour qu'on n'entende pas ce qu'ils disaient, et se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, etc. Vous connaissez la suite, Étienne a été lapidé. Il est écrit dans le livre des Proverbes, celui qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre la voix, sa prière même est une abomination. Sa prière même est une abomination. Sur les commandements d'homme, encore un passage, 1 Tite 13, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'homme qui se détournent de la vérité. Les commandements d'homme, ça a parfois de bons effets, mais ces faits, surtout, lorsque les gens viennent à l'église pour la première fois, oui, dans certaines églises, on leur indique à genoux, debout, assis. On se croirait presque dans l'armée. Hein. Garde à vous, repos, c'est à peu près la même chose. Hein. Mais c'est très bien pour les gens qui débutent dans la foi. C'est très bien. Mais il faut quand même aller au-delà. Les commandements d'homme. Alors, Colossiens 2, 8, c'est très connu. Hein. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur Christ. C'est ça, merci. Pour Paul, troisièmement, pour Paul, il y aura un après. Il y aura un après, il dira, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Est-ce que nous le disons nous aussi dans la prière ? Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Peut-être que beaucoup trop souvent, et moi le premier, hein, on a tendance à arriver avec notre liste de problèmes. Oui, pourquoi pas ? Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Alors je vais vous infliger un catalogue, qui n'est pas exhaustif d'ailleurs, de ce que la prière produit chez Paul, visite du livre des Actes des Apôtres. 9, 16. Dieu dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Acte 14, après avoir prié et jeûné. Acte 16, Paul et Silas sont en prison. Acte 16. Que fait la plupart des... le commun des mortels lorsqu'on est en prison ? Ben, on râle après le juge qui vous a fait ça. Et on le traite de tous les noms. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Si, je n'ai jamais été en prison, mais si ça m'arrivait, peut-être que je serais tenté de le faire. Il est écrit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges. Moi, je vous prêche, là, je vous fais la leçon. Je ne suis pas tout à fait sûr que si j'étais jeté en prison, et surtout injustement, je prierais et je chanterais des louanges. Je ne vais pas jouer au grand monsieur, hein. On est peut-être tenté de faire autre chose. Et pourtant, le modèle est là. Il priait et chantait les louanges. Acte 18, 9. Le Seigneur dit à Paul en vision, etc. Acte 20. C'est Paul qui parle. Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Je ne sais pas ce qui m'arrivera, mais de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit. La prière débouche sur un dialogue avec Dieu par le Saint-Esprit. Que des liens et des tribulations m'attendent. Et oui, c'est pas toujours un lit de roses. Acte 27, sur le bateau, dans la tempête. Je vous exhorte à prendre courage, c'est Paul qui parle à l'équipage du bateau. Acte 27, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura pas d'autre perte que celle du navire. Je ne l'ai pas, je suis désolé. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit, Paul, ne crains pas. La prière débouche. 24. Verset 24. La prière débouche sur un dialogue avec Dieu. La prière ne se contente pas de demander à Dieu. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'autre perte que celle du navire. Les soldats, les matelots et les passagers du navire arriveront tous à terre sains et saufs, et c'est ce qui se produit. Alors pour nous, tout ce passage sur la prière, ça débouche sur quoi ? Il y a beaucoup de choses à dire sur la prière. Hein. Si je me mettais à dire tout ce qu'on peut dire sur la prière, c'est pas sûr qu'on irait manger à l'heure. Mais deux ou trois choses. D'abord, les gens qui prient pour les résultats du baccalauréat de leur fils ou de leur fille, pour le blessé ou le malade grave qu'ils connaissent. Il y a des candidats au baccalauréat dans notre église. Nous avons nos pensées pour Thibault Gontier, pour ne citer que ce nom-là. Oui, je le sais, Bénédicte, mais ça se passera bien, pas de problème. Et Raphaël, le français, c'est noté. Alors, moi, j'ai une idée comme ça, je n'ai pas trop osé la dire, mais ça me paraît évident. Lorsque votre fils passe le baccalauréat, ou lorsque vous-même vous êtes candidat, lorsque un de vos proches est malade, nous prions Dieu. Très bien. Mais même quelqu'un qui a un coefficient intellectuel très bas se doute que vous souhaitez le succès à l'examen, le prompt rétablissement, n'est-ce pas ? Est-ce que vous ne croyez pas que demander ça à Dieu, c'est un petit peu le prendre pour un imbécile, ce qui n'est pas le cas ? Dieu sait très bien qu'un candidat à l'examen souhaite être reçu. Dieu sait très bien que celui qui est malade ou qui a un malade dans ses proches souhaite le rétablissement. Mais je crois que derrière ça, c'est évident. Mais derrière ça, il faut qu'il y ait un plus. Ça serait mieux s'il y avait un plus. Il arrive que Dieu, dans sa grande bonté, exauce ce genre de prière très intéressée et que sa volonté soit faite. Mais je crois que prier pour un blessé, un malade, un succès aux examens, que sais-je encore, il devrait y avoir autre chose. D'abord, l'humilité. Demandez à Dieu, je ne peux rien faire, je suis impuissant, mais toi tu peux. Souvenez-vous du centurion, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi, mais dis une parole et mon serviteur sera guéri. Entre parenthèses, quand ça va bien, est-ce que nous prions ? Lorsque la santé est bonne, nous devrions avoir, si notre santé est bonne, je vous connais tous depuis longtemps, il y a dans cette pièce des gens qui ont de très gros problèmes de santé, mais il y en a d'autres qui se portent comme le pont neuf, hein, même si ce n'est pas parfait. Est-ce que quand notre santé est bonne, nous remercions l'Éternel ? Est-ce que le jour où je sors du médecin qui m'a dit « tout va bien », je remercie l'Éternel ? Est-ce que quand je me mets à table, devant une table où il y a de l'abondance, je remercie l'Éternel ? C'est le geste d'ailleurs qu'on attend de nous les chrétiens, c'est de rendre grâce avant le repas. Est-ce que quand je me couche dans mon petit lit douillet avec des plumes d'oie, bien au chaud, etc., je remercie ? Parce qu'il y a des gens qui dorment dans de très mauvaises conditions, qui dorment dehors, qui dorment en prison, avec des voisins qui les embêtent. Est-ce que je pense à remercier ? Est-ce que je pense à louer quand tout va bien ? La deuxième chose, alors là je vais vous infliger une répétition, chaque fois que je prêche, mon auditoire y a droit, Éphésiens 5,19, entretenez-vous. Je vais encore répéter parce que ça me paraît capital. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques. Éphésiens 5,19. Oh, c'était déjà prêt. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Matthieu 10, 22, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, que notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père consolent vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Proverbe, ah, désolé, je n'ai pas la référence exacte. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pardon ? Bravo, il y a une bonne mémoire dans la salle. Proverbe 4. Si je ne suis pas déterminé à aller jusqu'au bout, si je ne suis pas déterminé à m'entretenir jour après jour, comme les candidats au baccalauréat qui font leurs exercices régulièrement, comme les sportifs qui font leurs exercices régulièrement, si je ne suis pas déterminé à ça, eh bien c'est lamentable, parce que les gens qui font ça, pour ce que la Bible appelle une couronne corruptible. D'accord ? Baccalauréat mentionne très bien, c'est une couronne corruptible. Un jour, ça disparaîtra. Il y a des gens qui font ça pour une couronne corruptible, alors qu'ils ne le font pas pour ce qui est une couronne incorruptible, être sauvé, être en communion avec Dieu. Si je n'ai pas cette ferme détermination, aucun prédicateur ne peut rien pour moi. Ce n'est pas la peine de courir les cultes et d'aller chercher le prédicateur le plus brillant. Il ne peut rien pour moi si je ne suis pas déterminé à aller jusqu'au bout. Priez également en étant sûr du destinataire. Il y a des gens qui prient. C'est quelque chose de très puissant, la prière, mais c'est quelque chose que nous ne contrôlons peut-être pas. Père céleste, je viens à toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Là, c'est clair, il n'y a pas de problème. Mais avant-hier, j'ai réussi à sortir Violette un petit coup et on a été acheter des parfums pour la fête des Pères. Et la vendeuse a repéré que Violette avait une petite tache sur la main. Puis elle a fait ça. « Qu'est-ce que vous faites, madame ?» dit Violette. « Je prie. » « Vous priez qui ?»« Le ciel. » Et Violette est très ferme, très précise, a dit « Moi, je veux savoir quelle personne vous priez. » La vendeuse n'a pas voulu répondre. Violette a retiré sa main, elle a payé ses achats et elle est partie. Prier en étant sûr de à qui on s'adresse. Père céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Là, tout va bien. Vous savez, si vous lisez les albums de Tintin, vous connaissez le gag, le capitaine Haddock est dans sa baignoire. Naturellement, c'est là que le téléphone sonne. Il sort de son bain, il décroche. Non, madame, ce n'est pas la boucherie sans eau. Vous connaissez tous ça. Beaucoup d'entre vous connaissent ça. Ça peut faire sourire, ces histoires d'appels qui arrivent aux mauvais destinataires. Ça peut faire sourire. Bon, maintenant, les téléphones, ils ont un clavier. On sait, on n'a qu'à taper sur un écran et choisir son correspondant. Mais avant, on avait vite fait de se tromper d'un numéro et d'atterrir chez qui il ne faut pas. Ça peut nous faire sourire, ça. Mais dans la prière, c'est terrifiant. On met en œuvre des puissances qui ne sont pas ami, en étant sûr du destinataire. Priez pour les autorités. Bon, là, tout a été dit. Nous avons eu 4 tours de présidentielles, de législatives, sans compter les primaires. Oui, bon, très bien. Tout a été dit sur le sujet. Prions pour les autorités. Au passage, je vous signale que si vous avez un jour quelque chose à demander aux autorités, à votre maire, par exemple, c'est mieux si vous avez fait chauffer votre carte d'électeur avant. Si vous êtes un abstentionniste impénitent, vous risquez d'être moins bien servi. À vous de voir. Priez également, encore quelque chose que je répète toujours, tous les ans, au printemps, certains d'entre nous vont partir en vacances. Nous partons en vacances, nous ne partons pas en permission. Nous n'oublions pas nos armes spirituelles. Allez, on révise un petit peu. La vérité pour ceinture. Qui se souvient de la suite ? Alors, attendez. La vérité pour ceinture, c'est noté. Le casque du salut. L'épée de la parole. La cuirasse de justice. Les chaussures du zèle. Et le bouclier de la foi. Voilà, tout y est. Bravo. C'est déjà dit. Voilà, nous partons en vacances, nous ne faisons pas comme un soldat qui part en permission et qui dépose au râtelier ses armes, son casque, ses chaussures lourdes, etc. Nous partons en vacances. J'irai, enfin pas moi, hein, cette année je ne pars pas, mais certains d'entre nous peut-être se retrouveront sur la plage avec 35 degrés à l'ombre. Là, quelquefois, on succombe à la tentation de se dénuder un peu, mais pas trop. Mais même là, mon frère, ma sœur, Dieu te demande de ne pas oublier tes armes spirituelles. Elles ne sont pas visibles, bien entendu, mais elles ont été demandées d'entretenir cela par la prière régulièrement. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont perdus par le fait des vacances, le changement de décor, et aussi pour les gens du Nord, le changement de température, bien sûr. Oui, encore que ça va, oui. Le changement de température, ce qui rend quelquefois certaines personnes agressives, etc. Si je ne suis pas vigilant, si je ne garde pas mon cœur, si je ne m'entretiens pas, tout peut arriver. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'adversaire de nos âmes ne sommeille ni ne dort non plus. Encore un passage important. 1 Pierre 3,7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, et un petit peu plus loin, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Regardez bien la dernière phrase. Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je vais me préparer à prier, je vais prier pour telle ou telle cause. Question, est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire obstacle à mes prières ? Il est écrit dans l'Évangile que si je n'ai pas pardonné, il ne me sera pas pardonné et la prière sera vaine. Rien, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et enfin, priez par le Saint-Esprit. Romains 8, 24. 26. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son projet. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, nous te bénissons et nous te prions Oui ? Non ? Eh bien voilà, je suggère aux pasteurs et aux anciens d'aller prier pour le frère qui est là. Que rien ne vienne faire obstacle à nos prières.